Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. C'est un fléau méconnu en France, les thérapies de conversion ou thérapies de réorientation sexuelle. Dans certaines communautés religieuses, des parents qui n'acceptent pas l'homosexualité de leurs enfants font appel à des pasteurs pour les ramener dans ce qu'ils considèrent comme le droit chemin. Veillée de prière à rallonge, régime, Kyler a vécu ce cauchemar pendant des années quand il était petit. À 24 ans, aujourd'hui, il parle pour mettre fin à ses pratiques d'un autre âge. Kyler raconte ce qu'il a subi au micro de Claudia Prolongeau.
Kyler est grand, souriant. Je le retrouve dans une petite ville à cheval entre l'Essonne et la Seine-et-Marne, où il vit. Il a passé toute sa vie en région parisienne et travaille dans le prêt-à-porter.
Mon histoire a commencé à l'âge de mes 7 ans, où j'étais un petit garçon très joyeux, un petit garçon de 7 ans, quoi, qui était à l'école, qui vivait ses petites journées très bien. Et un beau jour... J'ai fait venir dormir à la maison un ami à moi, de l'école, et devant la télé, on s'est embrassé. Mais c'était vraiment un bisou d'enfant, c'était pas un bisou de cinéma. Et à ce moment-là, ma mère nous a surpris, elle était dans tous ses états, elle s'est mise à pleurer, à me dire « pourquoi tu me fais ça ? Oh mon Dieu, etc. » Et tout de suite, elle m'a dit qu'elle allait m'emmener à des veillées de prière et à l'église toutes les semaines. Mes parents sont de confession évangélique protestante. Faut savoir que j'ai toujours baigné dedans. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, tous les dimanches, on va à l'église. Dès qu'il y a un événement comme un mariage ou un baptême ou une naissance, il y a un petit moment pendant la cérémonie qui est un peu religieux, etc. Donc, j'étais pas plus choqué que ça. Et donc, vient le premier dimanche suite à cet événement-là. Donc, on fait la messe comme si on en était. Et à la fin de la messe, elle m'emmène dans le bureau du pasteur, de son pasteur que je connaissais depuis toujours. Ils discutent un peu et ce que je retiens de cette discussion, c'est que je vais bien, mais un esprit, un démon a pris possession de mon corps. Et ce que j'ai fait ce soir-là avec ce fameux garçon, c'était pas ma conscience, c'était pas moi qui le voulais, mais c'était ce démon-là qui m'avait fait faire ces choses-là. Et donc ils m'ont expliqué que pour que ce démon quitte mon corps, en fait, que j'allais t'emmener à des veillées de prière tous les vendredis soirs. Et aller à l'église régulièrement le dimanche. En fait, je comprenais à cela que en fait ils allaient bourrer mon esprit, enfin ma tête, avec tout ce qui est paroles religieuses, actes religieux, etc., etc., pour que au bout d'un moment le démon ça le saoule et qu'il s'en aille. En gros, vulgairement, c'était ça. La toute première fois où j'ai entendu le terme homosexuel, c'était le fameux pasteur de ma mère qui, suite à une conversation avec ma mère, et il m'a dit que j'étais possédé justement par le démon de l'homosexualité. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ? Et je me souviens. Être rentré le soir et avoir tapé ce terme-là sur l'ordinateur. Et là, j'ai compris que c'était de l'amour entre deux personnes du même sexe. Et je me souviens, je me disais, c'est que tout le monde est homosexuel parce que moi, j'aime mon père et je pense que mon père m'aime. Enfin, à mon âge, l'amour, je voyais ça vraiment genre comme. Je voyais pas l'amour, quoi. Et je me souviens, tout le monde est homosexuel. Enfin, pourquoi on me reproche à moi de l'être La première veillée de prière arrive, donc en gros, pour ceux qui connaissent pas une veillée de prière, c'est on se rend dans une salle de prière entre minuit et 6h du matin, et on prie, on lit la Bible, on chante, toute la nuit, quoi. Et donc ça arrive un peu un vendredi, après l'école et tout, je rentre, je fais mes devoirs et tout, etc. Je suis avec mes potes jouer, je rentre, etc. Et ma mère dit « bon, on y va ». Et ce qui était bizarre, c'est que tout le temps, on allait, moi, mon grand frère, mon père, ma mère et moi. Et là, bizarrement, c'était que ma mère et moi. Je me suis dit, bon, bah, les autres sont pas obligés. Enfin, visiblement, il n'y a que moi. Moi, j'ai été. On arrive, tout se passe bien. Mais bon, au bout de minuit, 1h du matin, un petit garçon de 7 ans, enfin, j'étais fatigué, donc je commence à somnoler, etc. Et là, ma mère me dit, non, reste éveillé, reste éveillé. Donc, bah, je reste éveillé. Et vient la fameuse partie où ils lisent les paroles de la Bible, etc., etc. Et une fois que cette partie-là, elle est passée, après tout ce qui en suit, je peux m'endormir. Une fois que les paroles étaient rentrées dans ma tête, tout ce qui était chant après, c'était pas intéressant pour eux, donc je pouvais m'endormir. Donc au début, ça a commencé comme ça. Enfin, j'y allais deux bonnes fois par mois au VI de prière le vendredi soir. Par contre, le dimanche, à l'église, c'était tous les dimanches. En grandissant, j'arrivais vers 8-9 ans et j'avais compris que ces fameuses veillées de prière-là, il y avait un thème. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'y allais, je pensais que c'était une veillée comme une autre. Et en fait, en grandissant, j'ai compris que des fois, il y avait des thèmes, par exemple, si tu veux te marier dans l'année, si tu veux avoir un enfant dans l'année, l'infidélité, etc. Et des fois, il y avait un fameux thème, homosexualité, possession, etc. Et par contre, à ce fameux thème-là, j'étais emmené, il fallait que, pendant cette fameuse partie où ils disent la parole de la Bible, il fallait que je m'avance et qu'on prie pour moi, etc. Il y avait que les gens de l'église qui étaient là dans cette salle-là, à ces veillées de prière-là, à ce moment-là. À aucun moment, mes parents, ils ont parlé, par exemple, à mes voisins ou aux gens à l'extérieur. Et moi, à aucun moment, enfin, jamais, j'en ai parlé à mes maîtresses d'école ou à mes amis. Enfin, parce que j'avais vraiment peur. Donc, je préférais me taire et pas mettre la honte sur ma famille.
Les années passent, Kyle poursuit sa thérapie. Parallèlement, il commence à avoir de plus en plus de réflexions sur le fait qu'il est efféminé.
Mon grand frère, il me disait « Oui, tu parles pas comme ça. » Mes parents aussi me disaient « Arrête de parler comme ça. » Enfin, c'est tout bête. Mes parents, genre, je veux dire 1, 2, 3, 4. Je disais 1, 2, 3, 4. Au lieu de dire du coca, je disais du coca. Des trucs qui sont ridicules à l'heure d'aujourd'hui. Mais à l'époque, pour eux, c'était un signe de féminité. Et du coup, ils ont vu que malgré ces années-là de veillée de prière et de bourrage de crâne, ça, rien ne changeait. Et qu'au contraire, pour eux, le démon prenait plus de force et s'ancrait plus en moi. Le pasteur de ma mère, il nous conseille d'aller voir d'autres personnes, d'autres pasteurs, d'autres personnes dites religieuses. Et vient cette fameuse fois-là où c'était un pasteur du Honduras, un monsieur hyper connu, c'est-à-dire qu'il avait loué une grande salle avec des grands écrans géants, il avait un traducteur, enfin c'est vraiment genre l'événement de la journée quoi. Et du coup je rentre dans cette salle-là avec ma mère, parce qu'une fois de plus c'était que ma mère et moi. À son micro, il me pointe du doigt, il me dit « toi t'as le démon de l'homosexualité, approche ». Et là, je regarde ma mère et je dis, je vais y aller. Elle me dit, vas-y, vas-y. OK. Et là, ouais, il y avait une cinquantaine de personnes. Je connaissais vraiment personne. Et ma mère, elle connaissait personne. C'est-à-dire qu'on était les deux seuls inconnus. Enfin, donc, je m'avance. Et enfin, bien sûr, il parlait en espagnol. Hein, c'est son traducteur qui traduit. Mais il me disait, oui, t'es possédé par un démon et tout. Je le vois en face de moi. Il fait 2 mètres de haut. Enfin, il décrivait. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait c'était pas moi qui voyais comme, enfin il voyait pas moi, le petit garçon de 10 ans, il voyait lui le démon de 2 mètres. Et là il me dit de me déshabiller. C'était la première fois qu'on me demandait une chose comme ça, donc je me retourne vers ma mère, je vois qu'elle est en train de fermer les yeux, elle prie, etc. Je me suis dit bon bah. Et là ça commence à devenir bizarre, du coup je me déshabille. Il me dit enlève ton sous-vêtement. Donc je l'enlève, je cache mon sexe. Et il me dit non, non, les mains en l'air. Et donc, à ce moment-là, je ferme les yeux, et je mets les mains en l'air et je veux que ça se passe. C'est-à-dire que je vais coopérer, tout ce qu'il veut que je fasse, je vais le faire jusqu'à ce que, pour que ça passe le plus vite possible. Il se met à prier pour moi, il prend des poignées de sel, il me les jette dessus et tout ce qu'il disait c'était lâche-le, 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 ce n'est qu'un enfant, ce n'est qu'un enfant. Et à un moment, il dit quiconque dans la salle veut venir prier pour lui, s'approche, prend une poignée de sel. Donc je sais pas combien de personnes sont venues, mais je recevais des poignées de sel. Suite à cela, je me rhabille et je me mets au fond à côté de ma mère. Et ma mère était là en train de pleurer, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est à cet événement là que j'ai commencé à ressentir de la rancune. Vraiment de la haine, vraiment j'étais énervé contre mes parents, plus pas contre ma mère, de me faire subir ça alors que en fait j'avais rien demandé à personne quoi.
À la fin de la messe, les gens présents vont adresser leurs condoléances à la mère de Kyle, sincèrement désolée pour elle que son enfant soit maudit. Agacé par ce qui lui semble être un vrai numéro de cirque, Kyle décide, à 12 ans, de prendre ses distances avec sa famille.
J'ai commencé à m'isoler de ma famille, à rester seul dans ma chambre, à vraiment à esquiver tout ce qui était repas de famille. À la même période, je suis rentré au collège. Et ben, en rentrant au collège, ben voilà, on grandit, toutes les barrières elles sautent, je me lâche, enfin je grandis quoi, je suis en pleine expansion de moi-même, donc je m'en fiche quoi. Et je suis beaucoup plus efféminé, j'ai mes petites manières, je suis maniéré, il n'y a pas de souci. Et là, mes parents, ils voient ça, bah, ils voient que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne toujours pas. Et du coup, là, leur pasteur, il leur dit, de pratiquer un exercice, une délivrance. Mes parents me disent ça et tout, on va faire une délivrance, d'accord. Et moi, je dis ok. Sauf qu'avant ça, il faut qu'ils affaiblissent le démon en moi. Et pour cela, il faut que je jeûne. Et du coup, je me souviens d'une période de jeûne qui a duré 3 jours sans manger, sans boire, où j'étais enfermé dans ma chambre, sans manger, sans boire. Et suite à cela, on m'a emmené à l'église. On m'a fait cette fameuse délivrance-là qui a signé un peu la fin de tout ça. J'ai vécu la messe et suite à la messe, je suis allé dans une pièce avec ma mère, mon père, le pasteur et on devait être une petite dizaine. Et j'étais assis sur une chaise, ils ont commencé à prier pour moi, à m'imposer les mains, etc. Comme d'habitude, quoi, rien de nouveau. Sauf que, une fois de plus, rien ne se passait. En fait, il faut savoir que pendant leur délivrance, leur exorcisme, ils s'attendent à des réactions que tout le monde imagine quand on voit un exorcisme, c'est-à-dire que des convulsions, des gens qui tremblent, qui tombent, qui commencent à secouer dans tous les sens, etc. Et tant que il ne se passait pas ça, pour eux, c'était pas réussi. Il faut savoir que je sortais de 3 jours sans manger, plus une journée où j'écoutais encore la parole de Dieu, où j'étais bourré le crâne, j'étais vraiment fatigué, j'étais vraiment au bord de... Ouais, j'en pouvais plus, quoi, j'en pouvais vraiment plus. Et je m'en souviens, assis sur cette chaise-là, je me parle à moi-même dans ma tête et je me dis, ça va durer encore combien de temps, ça? Je me souviens, j'ai commencé à pleurer, mais les yeux fermés. C'est la seule fois, pendant toutes ces 5 années-là, où j'ai commencé à avoir peur pour ma vie. Où je me suis dit, après qu'ils aient fait ça, plus ça, puis ça, puis ça, s'ils voient que ça fonctionne pas, ils vont vouloir se débarrasser de moi, clairement. Ils ont commencé à prier, faire la délivrance, l'exorcisme, et... je suis rentré dans leur jeu. C'est-à-dire que tout bêtement, ce que je voyais au cinéma, à la télé, je l'ai reproduit. C'est-à-dire que je commence à faire les yeux blancs, trembler, tomber de ma chaise. Et là, j'entends « Ah, c'est bon, ça a fonctionné, il est parti !» Intérieurement, je me suis dit « Ah putain, enfin, ça y est !» Suite à ça, je rentre chez moi. Et là, tout redevient comme avant. Enfin, du côté de mes parents, de mon grand frère, c'est-à-dire que je redeviens leur fils, leur frère. On fait des repas tous ensemble et tout. On rigole ensemble et tout. On part en week-end en vacances tous ensemble. Sauf que moi, il me restait comme un petit goût amer, en fait. Comme un petit goût amer, dans le sens où la personne qui vole, en fait, c'est pas moi. Mais en fait, je voulais pas me relancer dans tout ce que j'avais vécu déjà auparavant. On me suis dit, je vais leur donner cette personne-là jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et donc, c'est sûr que de l'âge de mes 12 ans, je gommais tout ce qui était moi, c'est-à-dire que tout ce qui était un peu efféminé, tout ce qui était un peu ma folie, je gommais tout. J'étais devenu un garçon... lambda, enfin, qui parle pas plus que ça, qui va à l'école, qui rentre à la maison, qui joue aux jeux vidéo, qui... c'était pas moi, quoi. Mais tout, avec ma famille, tout se passait bien. Et du coup, ça a continué, je suis arrivé au lycée. Et au lycée, ça a été très dur, parce que au lycée, on grandit, on commence à avoir vraiment les pensées de jeunes adultes, quoi. Je serais incapable de dire à quel moment de ma vie ou à quel âge j'ai su que j'aimais les hommes, mais oui, au lycée, quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est bon, j'aime les garçons. Et je le savais bien avant, mais je me suis dit, faut que, si j'ai envie d'explorer cette partie-là de moi, il faut que j'arrive à avoir une couverture, tout bêtement. Et du coup, je ramenais des filles à la maison, je disais à mes parents, c'est mon amoureuse, blablabla. Mais il n'y avait aucun signe d'affectif entre elle et moi devant mes parents, ou même entre elle et moi tout seul.
Kayley a toujours été attiré par les langues. Et après l'obtention de son bac S, il rentre à la fac pour les étudier.
Je fais un an. Et à côté, j'avais un job étudiant qui était dans la vente de prêt-à-porter. Et au bout d'un an, on me propose un 35 heures. Et je dirais pas que l'école, c'était pas fait pour moi ou que la vente, c'était fait pour moi. Mais c'est vrai que pendant ce contrat étudiant-là, je m'étais rendu compte que j'aimais bien la vente, que j'avais découvert une passion pour les vêtements, etc. Mais quand on m'a proposé le 35 heures, je voyais pas juste un simple 35 heures. Je voyais vraiment mon indépendance, mon expansion, mon départ de chez mes parents, je voyais vraiment en fait la clé de ma liberté et je me suis dit avec ce 35 heures là je vais enfin pouvoir vivre ma vie comme je le veux. Du coup j'ai accepté. Chez moi c'était un peu le moulin, c'est-à-dire que tous mes potes venaient, les parents des potes ils venaient aussi, ils débarquaient comme ça, à l'improviste et tout. Hein. Et un soir comme ça, un ami, mon meilleur ami de l'époque, vraiment je le connaissais depuis 8 ans, il n'y avait rien d'ambigu entre nous et il était venu à la maison et au moment de partir il part. Et là mon père il me dit je veux plus d'amis garçons chez toi à la maison. Je dis, comment ça, tu veux plus d'amis garçons à la maison? Elle me dit, je sais très bien ce que tu fais, etc. Et en fait, moi, ça m'a énervé, parce que je me suis dit, attends, pendant toutes ces années, j'étais irréprochable, j'ai pas fait un pas de défaut, mais en fait, pendant toutes ces années-là, tu m'as pas lâché des yeux, en fait. Tu m'as gardé, on parle le moins de faux pas, et pour le coup, là, tu te trompes, en fait, parce qu'avec lui, il se passe rien. Et de fil en aiguille, les langues se sont déliées et j'ai dit oui, je suis gay. Pendant ce temps, ça a rien à marcher et tout. Enfin, vous avez perdu votre temps et vous êtes ridicule. Et ouais, j'ai vraiment déversé toute ma haine. Hein. Vraiment, ce soir-là, c'est tout ce que j'avais gardé pendant toutes ces années-là, tout ce que j'avais, ouais, toute cette haine, j'ai déversé. Et il était 4 heures du matin, il m'a dit tu sors.
Kylie quitte donc la maison. Après une nuit dans sa voiture, il trouve une colocation. L'été 2016 vient de commencer, il a 18 ans.
Pendant 2 ans, on ne s'est plus parlé, jusqu'à mes 20 ans. Et un soir, j'envoie un message à ma mère et tout. J'ai dit oui, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Et tout. Elle me dit c'est une fille. J'ai dit non, tu fais fausse route encore une fois et tout, etc. Et elle me dit ah, mais c'est vraiment pas parti, ça n'a pas fonctionné, nanana, reviens à la maison, qu'on recommence. Ah, certainement pas. Et donc, du coup, on s'est encore plus éloigné. Et un beau jour, elle est revenue. Elle m'a dit « Ça va avec ton copain ?» Je lui ai pardonné. Mais je lui ai pas pardonné parce qu'elle méritait mon pardon. Je lui ai pardonné parce que j'en avais marre de traîner ça, cette haine, ce truc-là. J'avais besoin de faire ma vie entièrement et d'en profiter pleinement et de me débarrasser de ça, quoi. Et ouais, je l'ai pardonné. Aujourd'hui, ça va nickel. Même, c'est peut-être bizarre à dire, mais je l'aime plus qu'avant. C'est-à-dire que pendant toutes ces années-là, en fait, j'ai pas profité de ma mère comme pleinement parce que j'étais pas moi en fait. Et maintenant que je suis moi, je me rends compte que toutes ces années-là, elle m'a manqué.
Kylie a revu son père une fois. Ils se sont serrés la main. Il n'a plus de contact avec son grand frère non plus. En 2018, il a commencé à mettre en ligne des vidéos sur YouTube dans lesquelles il raconte sa vie et les difficultés qu'il rencontre au quotidien.
J'ai commencé YouTube déjà parce qu'autour de moi, on me disait de me lancer dedans. Et donc, j'ai commencé tout naturellement par une première vidéo parce que c'était une YouTubeuse noire qui prônait le fait de s'éclaircir la peau. Du coup, j'ai fait une vidéo réaction à ça. Et suite à ça, on m'a demandé de parler de moi, de parler de moi, de parler de moi. Donc, j'ai commencé à faire une première vidéo où je parlais de moi. Puis une deuxième, puis une troisième. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très thérapeutique. Le fait de s'asseoir face à une caméra et de vider sa tête, vider son cœur, c'était très thérapeutique. Et donc j'ai commencé à raconter cette fameuse fois-là où mes parents m'ont viré de chez moi à cause de mon homosexualité. Puis j'ai raconté cette fameuse période de ma vie-là, ces 5 ans-là de thérapie de conversion. Et ça m'a fait énormément de bien et ça a fait du bien aux gens. Les personnes se sont énormément senties concernées. J'ai eu énormément de retours, des personnes qui me comprenaient, qui avaient vécu la même chose ou qui vivaient encore la même chose. Ce qui m'a énormément surpris, c'est que c'était pas forcément des personnes issues de la même religion que moi. Et c'était pas forcément des personnes qui ont vécu une thérapie de conversion dans le milieu religieux. Il y avait 2-3 personnes qui sont venues qui m'ont dit « Oui, mes parents ils m'ont fait voir un psychiatre. » ou Et en fait, je pense que en gros, c'est un peu tous le même processus. Parce qu'il faut savoir aussi que le terme thérapie de conversion, je l'ai appris il y a 6 mois, grand maximum. Une fois que je l'ai appris, je me suis penché dessus. Et j'ai vu que c'était répandu dans le monde entier, en fait. Je peux pas me permettre de pas parler de raconter cette histoire-là, parce que moi, quand je vivais tout ça, j'aurais aimé regarder la télé, allumer la télé ou l'ordinateur et voir quelqu'un qui raconte une histoire et qui me fasse comprendre que c'est pas normal. Je pense que j'aurais eu le courage d'aller en parler à ma maîtresse. Et ouais, on m'aurait peut-être retiré de ma famille, etc. Je pense que ça aurait été très dur, mais je pense qu'aussi, ça, à l'époque, ça aurait été pour mon bien.
Claudia, Kylie a 24 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il est traumatisé par tout ce qu'il a vécu ?
Assez bizarrement, pas tant que ça. Donc, il a plus de relation, on l'a dit, avec une partie de sa famille. Mais ça a l'air d'être un jeune adulte assez lambda. Il est très souriant, il travaille, il est très bien inséré. Il n'a pas l'air de garder de la rancœur vis-à-vis de tout ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, on l'a dit, il est pas du tout fâché avec sa mère et il ne lui en veut pas.
2 députés préparent un texte en ce moment pour essayer de faire interdire ces pratiques.
Oui, ces 2 députés, ce sont Laurence Vansenbrock-Mialon, qui est une députée LREM, et Bastien Lachaud, qui lui fait partie du groupe de la France Insoumise. Ces 2 députés, depuis début juillet, y préparent un texte pour faire interdire ces pratiques. Comme cette infraction n'existe pas à ce jour, les victimes ne portent pas plainte, donc on ne sait pas exactement combien elles sont. Et c'est aussi ça leur objectif, c'est de pouvoir savoir de manière plus précise combien de personnes sont concernées par ce problème.
Merci Claudia Prolongeau et merci à Andy Millet pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.